Ça y est, dans un mois, l'Eurovision 2024 démarre. Et du coup, dans 12 points, on a eu l'idée de vous parler des chansons et de ces débriefs tous les lundis, mais également de faire redécouvrir à ceux qui nous rejoignent nos meilleurs épisodes des précédentes saisons. Et on commence dès aujourd'hui avec un épisode consacré à la grande question: est-ce que l'Eurovision est ringarde en France ? Alors cet épisode enregistré en 2022 montre que beaucoup de choses ont évolué depuis, puisque même Énergie aujourd'hui fait la promo du concours. Mais ça reste quand même très ancré chez les Français. Alors essayons de répondre à cette grande question ensemble et redécouvrons cet épisode. Bonne écoute.
Ce que je pense de l'Eurovision, c'est que c'est très kitschouille.
Moi j'ai pas suivi l'Eurovision, les seuls trucs que je voyais c'était sur Twitter et je voyais plein de gens live tweeter ce qui se passait.
L'Eurovision, moi je regarde pas beaucoup. Je sais pas, il y avait un côté un peu... vieux beauf derrière.
Sans vouloir critiquer les artistes qui sont choisis à l'Eurovision, bon, c'est... Oui, on peut dire que c'est un peu ringard.
Finally, our 12 points go to...
Our 12 points.
The 12 points.
The 12 points.
Nos 12 points. 12 points.
Go to.
Go to.
Go to.
Malta.
Estonia.
Iceland.
Ukraine.
España.
Italy.
United Kingdom.
Austria. France.
Bonjour à tous. Bonjour à toutes vous qui nous écoutez aujourd'hui dans 12 points le podcast. On est hyper fiers parce que nous recevons aujourd'hui en plus de mes acolytes favoris, Vincent et Quentin.
Salut Thomas.
Salut, salut Quentin. Salut
Fabien Randan, qui est journaliste culture à 20 minutes et qui a couvert notamment l'Eurovision à moult reprises. Salut Fabien.
Salut Fabien.
Salut les garçons, merci pour l'invitation.
Merci à toi d'être présent pour ce sujet qui nous intéresse tous. Est-ce que l'Eurovision est ringarde ? Eh bien on y va, c'est parti, on va répondre à cette question tous ensemble. Alors pour commencer, je vais faire un tour de table pour vous. Est-ce que l'Eurovision est ringarde ?
Alors, disons que selon moi.
Selon toi ?
Selon moi, non, ça ne l'a jamais été. Si, ça l'a été. Il y a eu des périodes objectivement où ça a été un peu ringard. Non, je pense vraiment que pour le coup, le point de vue français est un petit peu à remettre en perspective historique et surtout vis-à-vis des autres pays. On est l'un des derniers pays à avoir déringardisé l'Eurovision. Vraiment, on est en retard sur le côté non-ringardiste de l'Eurovision. On en parlera, mais nos dirigeants de France Télé ont mis un peu de temps à comprendre que...
Que c'était important, merde.
Et surtout, c'était bien, c'était un vraiment show moderne, etc. Donc, je suis d'accord avec toi, hein, dans ton propos introductif. Je pense qu'il y a une idée générale, un stéréotype, un peu un Eurovision bashing, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas regardé l'Eurovision depuis quelques années. Et donc, ils n'ont pas vu que ça avait radicalement
évolué.
Changé.
Fabien.
Oui, je suis un peu d'accord avec ça, puisque il y a 15 ans, peut-être que l'accusation en ringardise, elle tenait. Mais maintenant, on peut dire que l'Eurovision est depuis 5-6 ans entrée dans un nouveau cycle et elle est pleinement hype. Et je crois que l'édition 2021 a ramené un vent de fraîcheur, de nouveauté et un nouveau public au concours.
Vincent, toi, quel est ton avis ?
Moi, le problème, c'est qu'en fait, avant tout, il faudrait déjà s'interroger sur le mot ringard, finalement,
oui,
quelque part. Parce
c'est
que,
très juste.
Parce que l'Eurovision ringard, oui, mais... C'est bien aussi, en fait, parce que ça amène aussi cette touche de folie, de... Bon, des fois, c'est de la merde, hein, vraiment, oui. Enfin, on va pas se mentir. Mais par moments, en fait, à force de vouloir être un peu trop mainstream, un peu trop... Voilà, on lisse un peu tout et on perd des fois dans les performances qui sont arrivées récemment. Je trouve qu'il y a un côté qui est un peu tout lissé, quelque part, et c'est dommage.
C'est très juste, on reviendra sur ce point. Moi, pour ajouter un point sur l'Eurovision ringarde ou pas, je dirais que tant qu'on ne s'y intéresse pas, on pense toujours que c'est un programme ringard. Et typiquement, moi qui m'intéresse maintenant à l'Eurovision grâce à ce programme, je suis capable de le défendre bec et ongle. Je suis assez fier de dire que je participe et que je développe ce podcast avec vous. Chose qui était moins évidente au tout début. Parce que j'avais moins d'arguments ou de compréhension du programme. Et parce que surtout, j'étais très ancré dans les connotations françaises, franco-françaises du truc. Ouais. Donc, on l'a entendu notamment en introduction de cette émission. Les gens, globalement, pensent que le programme a une connotation très péjorative, très ringarde. Qu'est-ce qui justifie qu'en France, on trouve l'Eurovision ringard ?
Moi, j'ai, là-dessus, je dirais que le fait que pendant la première décennie des années 2010, donc c'est-à-dire après Sandrine François, qu'il n'y ait pas eu des...
Elle l'a bien nommé.
Voilà. qu'il n'y ait pas eu des propositions et de bons résultats, tout simplement, pour la France, à une ou deux exceptions près, puisque Patricia Casse a quand même fini huitième. Voilà, mais justement, avec quelque chose qui n'était pas... Ringard, qui était dans quelque chose d'assez français, d'assez sophistiqué, et on n'aime pas, mais voilà, ça ne cherchait pas une forme de kitsch comme les Fatal Picard, par exemple. Oh là là. Il y avait l'année de sélection des Fatal Picard, je crois qu'il y avait un groupe, de les Vedettes, je crois que c'était avec des majorettes qui chantaient Papa est mort, une chanson sur Pinochet. Bon, il y avait des trucs quand même dans les sélections où c'était un peu au secours, quoi, voilà. Et le fait qu'il y ait eu ces mauvais résultats ou ces contre-performances, je pense que ça a fait que les Français ont pris en grippe le concours. Et surtout, hormis Divine, il n'y a pas eu de succès, de succès des chansons candidates. Quoi. C'est revenu avec J'ai cherché Damir, qui pour le coup s'est classé. Qui a relancé les choses et relancé l'intérêt. Et en fait, pendant longtemps, je pense que les Français se sont dit « Oui, mais l'Eurovision, c'est à part de toute notre industrie musicale, puisque c'est pas ce qu'on écoute à la radio, c'est pas ce qu'on aime, et c'est pas ce qui est la chanson française. »
Alors c'est vrai que la position de la France, globalement, joue sur l'appréciation du programme, sans doute. Peu importe ce qu'on présente, on s'imagine que la France finira toujours dernière, et du coup, on s'y désintéresse parce qu'on sait qu'on y va, mais ça sert à rien. On y va et que ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que les pays votent entre eux. C'est globalement ce qui ressort de la vie générale aussi, ce qui est moins vrai maintenant depuis que les jurys sont revenus dans le concours. Moi, j'aime à penser que de base, les Français aime ne pas aimer.
Par principe.
Après, oui, il y a ce côté un peu franchouillard, râleur, etc. Machin. Mais comme tu disais, en fait, c'est au moment où on s'intéresse finalement à ce programme, ça reste un télécrochet, un concours de musique, un concours de chant, comme il y en a sur toutes les chaînes aujourd'hui qu'on nous propose. TF1 nous propose The Voice, Patrick Sébastien avec le plus grand cabaret du monde. Enfin, voilà, je veux dire, on est aussi abreuvé de cette chose-là et ça marche.
Oui, mais voilà, c'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que ces programmes-là, The Voice, machin, qui font référence depuis plus de 10 ans maintenant sur TF1, dès qu'il y a un vainqueur de The Voice, plus personne va renier le fait qu'il passe à la radio. C'est des talents qu'on recrute, c'est des talents qui sont des viviers à la fois pour le cinéma, dans le doublage, pour même l'Eurovision. On va en discuter tout à l'heure avec Amir, mais pourquoi l'Eurovision, qui est un télécrochet comme un autre, a cette image de ringardise?
Mais je pense vraiment, voilà, la première idée, c'est vraiment qui a déjà été évoquée, c'est qu'on a fait, on a vraiment eu des mauvais scores. Et partant de ce principe-là, France Télé n'a pas investi dans la marque, n'a pas essayé de rendre ça cool, sympa, frais,
sexy.
Alors, j'irai pas jusqu'à sexy. On n'est pas Fuego et on n'est pas Chypre. Mais je pense que du coup, il y a un cercle vicieux qui s'enclenche. C'est-à-dire que la France fait des mauvais résultats. France Télé, quand c'était diffusé sur France 3, du coup, n'investit pas dans le programme. On envoie des artistes vraiment de seconde, voire de troisième zone, qui font des mauvais résultats. Et c'est le cercle vicieux. Et 2016, on en reparlera, mais on a arrêté le cercle vicieux. On n'a pas forcément performé les années suivantes, sauf peut-être Barbara Pravi deuxième. Mais ça prend du temps de relancer la machine, de rendre l'Eurovision dynamique, créative et sympathique et cool. Mais on sent que France Télé réinvestit. Donc on est en train de, ils essayent de rechanger la manière de percevoir le concours.
Oui, parce que les Français adorent effectivement râler, se plaindre. Le truc, moi, je le vois dans les commentaires sur 20 minutes quand je fais un article sur le candidat français, par exemple. Voilà. Les commentaires, ça va être systématiquement « Ah ben, on va encore finir dernier, on va encore finir en dernier. Ah, ben, c'est super pour arriver premier en partant de la fin. » Donc, il y a vraiment une sorte de défaitisme, de choses comme ça. Je relisais encore comme ça pour m'amuser les commentaires, puisque c'était il y a à peu près un an, là, au jour où on enregistre, que Barbara Pravi a été désignée pour aller à Rotterdam. Je lisais les commentaires, les réactions, et c'était toujours du négatif. C'est trop français, c'est trop piaf, c'est trop ci, c'est trop ringard, c'est trop vieillot. Il y a toujours un truc qui va pas. Enfin, que ce soit trop moderne, c'est trop moderne, c'est trop français, il n'y a pas assez d'anglais, il y a trop d'anglais. Enfin, voilà. Et en fait, moi, je le vois aussi dans la manière dont les articles consacrés à l'Eurovision sur 20 minutes font des audiences assez importantes, c'est qu'il y a un intérêt des Français pour ça. C'est quand même le truc qu'un peu on a envie de détester et d'aimer, et quand même ça chagrine un petit peu si on fait vraiment un mauvais résultat à l'Eurovision. Mais on le dira pas trop fort.
Sur la couverture médiatique, Fabien, tu es l'un des rares à couvrir aujourd'hui le concours, ou en tout cas, tu as été un des précurseurs à couvrir le concours.
Bravo.
De manière...
Merci.
Mais de manière à le déringardiser, clairement. On en parle comme, et on en discutait en off, des gens qui parlent d'une compétition sportive. Qu'est-ce qu'il y a de plus bête à parler de l'Eurovision qu'à parler d'une compétition sportive, par exemple? Mais est-ce que la couverture médiatique aussi française n'est pas mauvaise et contribue à cet effet de ringardise? Quand tu vois Quotidien, par exemple, le lendemain de l'Eurovision, la seule chose qu'ils mettent en avant, c'est elle est couacs, elle est machin, elle est bidule. Oui.
Alors, il y a les médias autour, enfin, je veux dire, il y a les autres médias, mais le média diffuseur, en tout cas France Télé, vraiment depuis 2016,
Il faut reconnaître
qu'ils font du bon travail. En tout cas, ils y mettent vraiment les moyens, les envies. Enfin, on sent qu'il y a un changement. Il y a vraiment eu un gap.
Oui, il y a eu un changement effectivement du côté de France Télévisions qui a été amorcé avec Amir. Pour revenir sur mes confrères et consoeurs, c'est vrai que Quotidien, moi, il y avait quelque chose qui m'avait un peu agacé dans cette moquerie systématique.
Moi aussi, ça m'agace. Oui. Parce que j'adore Quotidien, mais ça m'agace, ça, ouais, vraiment.
Et, le truc, c'est que c'était le comble, en fait. C'était en 2019, la chanson Soldi de Mahmoud, le chanteur italien. Donc, en fait, Quotidien s'était mis en tête de traduire les paroles, mais comme on les entend phonétiquement.
Ah, oui.
Et donc, ils ont fait une blague sur Jackie Chan et le Ramadan. Et ben justement, oui, il parle de Jackie Chan et du Ramadan dans la chanson. Donc, ben, voilà, bravo les gars, vous avez écouté la chanson et vous avez retenu les mots qu'il y a dedans. Il n'y avait pas de blague, en fait, quoi. Oui, voilà, il parle bien de son père qui regarde des films de Jackie Chan et qui fait ou ne fait pas le Ramadan. Je n'ai plus les paroles en tête.
C'est l'abonnement Babelio.
Non, mais voilà, c'est qu'il y a un côté... c'est ce côté toujours à aborder l'Eurovision sous l'angle les paillettes. Alors oui, c'est ça, mais je mettrai au défi mes confrères et consoeurs d'écrire un article sur l'Eurovision sans utiliser le mot kitsch, quitte à essayer de trouver d'autres mots, voilà, pour définir ce qu'ils veulent dire par là. Mais voilà, il y a vraiment, ça tend à évoluer aussi. Hein. Moi, je le vois dans la salle de presse. Je couvre le concours donc depuis 2015 et je vois qu'au départ, on était une poignée de journalistes français. Et là, de plus en plus, on voit les médias qui se diversifient, les médias généralistes. On voit arriver de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus même de concurrence entre journalistes sur place. Donc,
on arrive.
Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et qu'il y a un intérêt et que de ce sujet-là, c'est pas quelque chose qui est inintéressant. Et oui, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de l'Eurovision comme de la Coupe du Monde de foot? Voilà,
mais je suis totalement d'accord.
C'est, je pense qu'on peut raconter, et c'est ce que vous faites à travers ce podcast, sur l'Eurovision, ça dit plein de choses sur l'Europe, sur sa culture, sur sa géopolitique, sur son histoire, sur l'ère du temps, l'ère d'une époque. Et on peut dire pareil avec le football, quoi. Voilà, il y a des tensions géopolitiques qui s'expriment aussi sur le terrain, hors du terrain, des pays qui participent pour la première fois. Il y a un côté soft power aussi, comme dans le football. Donc, c'est pas plus bête, et c'est pas parce que c'est du divertissement et pas du sport que c'est moins intéressant ou moins légitime.
Alors, oui, vas-y Vincent.
Après, je voulais dire, pour éviter cette critique de ringardise, je trouve que France Télé, depuis quelques années, en fait, manifeste un intérêt pour l'Eurovision. Et donc, du coup, en fait, intéresser les gens à l'Eurovision, c'est déjà commencer par un concours, comme ils ont fait là depuis quelques années, un concours de sélection comme The Voice, finalement, qui permet en fait de mettre un coup de projecteur sur l'Eurovision. Et donc, du coup, le Français lambda peut s'intéresser au programme parce qu'il peut voter et il peut se dire, ah ben... Cette chanson-là, je l'aime bien et je suis content qu'elle représente mon pays, etc.
Vincent, tu disais qu'en 2014-2015, effectivement, on ressent un changement chez France Télévisions. Et c'est marrant parce que même moi, j'en parle depuis qu'on a commencé ce programme ensemble, en 2014, Conchita Wurst, tout le monde en parle. Et moi-même, je me réintéresse de nouveau au concours après l'avoir mis de côté dans ma vie depuis très longtemps. Et il s'est passé quelque chose dans cette année-là.
Moustache.
Zéro point.
Et Nathalie André, qui est la directrice des divertissements, le dit très justement dans de nombreux témoignages. J'espère qu'on l'aura autour de ce micro un jour. Elle explique que elle a balancé Lisa Angel en 2014 et en se rendant sur place, elle est tombée des nues parce qu'elle a découvert que le concours de l'Eurovision, c'était un show à part entière, quoi. Et qu'il fallait y aller avec une âme un peu de conquérant. D'ailleurs, je crois que tu as retrouvé un extrait hyper intéressant de Laurent Fabius,
qui était ministre des Affaires étrangères, qui était interrogé à la matinale de France Inter.
à l'Eurovision, on est avant-dernier, avant-avant-dernier et dernier. Bon, si on participe, il faut participer dans des conditions qui nous permettent d'être dans les premiers rangs. J'ai vu, je vais tout vous confier, la prestation de celui qui a gagné, qui est un Suédois. Et c'était un show, comme on fait maintenant, avec des lumières, etc. Et par rapport à ça, nous, c'était un petit peu la télévision avant l'invention de la télévision.
Oui, tu vois, la télévision avant l'invention de la télévision. Il y va pas avec le dos de la cuillère, parce que c'est vrai que ça faisait vieillot, ça faisait vraiment complètement anachronique dans un show technologique où vraiment faut envoyer du pâté. Et nous, on envoie les Angels.
Après, on le sait, hein, le concours, il n'y a pas de règles par rapport aux chansons qui gagnent, encore une fois. Non, si c'est vrai, Quentin, on est toujours surpris. Excuse-moi, quand le Portugais gagne, excuse-moi. Merde.
C'est vrai, le Portugais, c'est atypique, je te l'accorde.
Et donc, du coup, en fait, voilà, peut-être éventuellement, oui, évidemment, Mans, c'était incroyable, voilà, avec les projections, etc. Bon. Clairement, je ne vais pas défendre la France pour Les Angels. J'ai déjà fait ce billet-là dans les billets d'Hurleuse, donc on sait très bien ce que j'en pense. Mais il faut dire que des fois, on peut envoyer des choses qui dénotent pour voir ce que ça fait.
Fabien.
Oui, en fait, je crois que le cas de 2015 illustre assez bien la thématique de l'émission, puisque en fait, Nathalie André avait cette image de ringardise, un petit peu de l'Eurovision, de ce qu'il faut envoyer en étant français à l'Eurovision. Et elle y allait avec une chanson qui a été écrite et composée, je crois, par le même compositeur Goldman que Sandrine François en 2004, oui. Donc le dernier top 5 de la France. Quoi. Voilà, donc elle se dit, on ne change pas une équipe qui fait top 5. On revient une quinzaine d'années après, ou 10 ans après, voilà, avec le même auteur-compositeur. Et non, voilà, ça ne marche pas. Et effectivement, elle a vu sur place que le concours, entre-temps, il a changé. Il y a eu une mutation, mais effectivement, c'était la mutation, elle a eu lieu les 2-3 années précédentes. Et puis 2014, c'est un peu l'année qui bascule. Quoi. Et c'est en 2015 aussi, c'est effectivement le Suédois Måns Zelmerlöw qui a gagné. Mais il faut se rappeler que le vote du public a été remporté par les Italiens de Il Volo.
Il Volo, c'est les trois prêtres.
Voilà,
c'est la même chose.
Il Volo avec donc une proposition qui était dans du lyrique, qui n'était pas forcément ce qui sonnait le plus moderne. Donc, effectivement, c'est grâce au jury que le Suédois l'a remporté. Donc, voilà, moi, je pense que pour faire un bon résultat à l'Eurovision et pour gagner l'Eurovision, maintenant la règle c'est l'authenticité, c'est qu'on ait une chanson up tempo, une balade, qu'on chante en anglais, en français, en portugais, il faut qu'il y ait une évidence, que ça crève l'écran, que la personne qui chante la chanson la vit, la défend, l'incarne, et ça je crois que tous les gagnants, toutes les gagnantes depuis peut-être 2017 incarnent ça, quoi, voilà, cette authenticité-là.
Rapporter de l'authenticité, ça permet aussi de séduire le public de manière plus large, mais il y a aussi indéniablement le fait que France Télévisions réinvestit sur le programme, le passant de France 3 à France 2, recréant, comme tu le disais, des concours en fait, pour pouvoir sélectionner et intéresser aussi les Français au programme en amont de l'émission, chose qui ne s'était pas faite depuis des années. Et il y a une autre chose aussi qui est assez invraisemblable de la déringardise aujourd'hui du programme, c'est que on entend les chansons passer à la radio. Et on ne les entend pas que sur RFM. Aujourd'hui, on entend les chansons de l'Eurovision passer sur Énergie.
Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a un double mouvement. Déjà, premièrement, France Télé, quand elle réinvestit avec Amir, à partir de 2016, où il y a une bascule, c'est que les maisons de disques sont amenées à travailler avec, ou plutôt France Télé travaille avec les maisons de disques. Il y a vraiment, et beaucoup de pays d'ailleurs, ont parfois des partenariats exclusifs avec des maisons de disques. C'est-à-dire, envoyez-nous 5-6 artistes de votre maison de disques et on en envoie un qui, lui, va faire une tournée européenne, qui va faire un show devant 150 millions de personnes. Et vous allez voir, ça va faire vendre du disque.
Oui, mais par rapport à ce que dit Nathalie André, notamment, dans ses différents témoignages, c'est qu'au moment où elle choisit Lisa Angel, elle va déjà chercher les maisons de disques. Mais elle refuse de leur donner des artistes parce qu'elle pense que l'Eurovision plombe les carrières.
J'entends que les stars établies, que les chanteurs, chanteuses établies qui ont déjà une carrière, ne souhaitent pas y aller parce que c'est vraiment le casse-pipe. C'est ça marche ou c'est qui tout double. Mais justement, ce qu'ont compris par contre les maisons de disques, c'est que les très jeunes artistes qui sont vraiment tout au début de leur carrière, ça peut être un accélérateur gigantesque. Donc il est probable que, on le verra au fur et à mesure de la sélection française ou même d'autres pays, c'est qu'ils prennent en fait des gens qui ont une petite notoriété, qui ont fait déjà un télécrochet et qui potentiellement pourraient utiliser l'Eurovision comme un tremplin.
Et sur 2016 aussi, cette année de bascule, ce qui est important de rappeler aussi, je pense que c'est l'arrivée d'Eduardo Grassi à la tête de la délégation française, puisqu'il est arrivé justement dans le bureau de Nathalie Andin en disant « Voilà Nathalie, le dossier de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faut envoyer, de comment il faut aborder la compétition. » Et c'est lui qui a apporté la candidature d'Amir, qui a plaidé aussi pour que la France aille participer à des concerts à l'étranger, puisqu'il y a des concerts notamment à Amsterdam, il y en avait à Londres qui n'existent plus aujourd'hui.
Quand tu dis des concerts, c'est-à-dire ?
Pour faire découvrir les chansons.
La pré-campagne, le tour d'Europe.
Voilà, il y a Eurovision in Concert, par exemple, à Amsterdam, où, on va dire, une vingtaine des candidats, tous ceux qui veulent y aller, hein, je pense que l'invitation est ouverte à tous, mais sont réunis un samedi, le samedi soir, viennent chanter leurs chansons sur scène. Alors, il n'y a pas de mise en scène, ils chantent de manière, leur titre, normalement, quoi, voilà, il y a un petit côté kermesse, c'est assez fun, et ils viennent déjà à la rencontre des fans.
Petit côté kermesse, tu vois déjà la connotation que tu donnes
non,
au truc
non, mais en tout non, cas... Regarde regarde le concert là, ça fait kermesse. Mais rideau rouge.
Voilà, oui, non, mais c'est un peu comme ils font les concerts du West End en fait, qui se font dans
tout à fait, sur la place. Oui, c'est ça. À Londres, tout à
donc
fait.
C'est juste faire la promotion de quelque chose. Et la transition est géniale parce que là on a abordé le côté ringard de la France. À moins que Vincent, tu voulais rajouter quelque chose.
Non.
Je te vois. on vient d'aborder le côté ringard vu de la France. Et vu des autres pays, est-ce que le programme est vraiment ringard chez tout le monde ? Mais avant ça, je vous propose évidemment de faire notre petite transition avec le billet que vous attendez tous et que vous connaissez tous par cœur. Il s'agit de...
Des hurleuses ?
Non, pas du tout.
L'instant et le digossien. Ah,
t'écoutes pas l'émission.
Pardon, mais si pour ça.
L'instant.
You !
Elodie ?
L'instant.
You !
L'instant.
You !
C'est l'instant.
You !
Gossien.
Gossien.
C'est l'instant Élodie Gossuin.
Et cette semaine, c'est toi, Vincent.
Ça faisait longtemps. Ben oui. Parce que quand il m'a fallu préparer ce billet de l'instant Élodie Gossuin pour notre épisode consacré à l'Eurovision ringard, je me suis tout d'abord posé une question existentielle. Qui sommes-nous pour juger le taux de ringardise d'une prestation ? Après tout, c'est vrai, hein, on a tous et toutes des sensibilités différentes, des goûts différents, des attentes différentes. Je tiens néanmoins à préciser que grâce à mon aptitude divine, je cible ce que veut le public. Et c'est pour ça que je gagne tous les jeux des 12 points. N'en voulez pas, c'est comme ça. C'est tout, bande de jaloux. Ouais. Taisez-vous. Voilà. Personnellement, j'en peux plus d'entendre que l'Eurovision est un concours ringard, dépassé, daté et qui n'intéresse personne. Parce que, à mon sens, les quelques personnes qui ont encore le malheur de me dire ça, et tu l'as dit Thomas, hein, c'est ces personnes qui n'ont pas regardé le programme depuis un certain temps. Beaucoup de prestations au fil des ans, mais elles me foutent encore les poils tant elles sont superbement chantées et ou mises en scène, avec soit une grâce toute particulière, soit une emphase jouissive démesurée. Alors oui, ça chante fort. Oui, il y a plus de paillettes que sur une robe de chair. Oui, les racines des cheveux sont décollées par l'usage abusif des wind machines, mais est-ce que c'est pas ça qui fait le charme du programme, ce côté over the top, too muchia et grandiloquent? Alors, je peux comprendre que par le passé, certaines prestations ont la dent dure et font du mal aux vieux clichés entourant le concours de l'Eurovision. Des prestations que, d'ailleurs, je ne pourrais pas lister raisonnablement hein, tant il y en a. Hein. Mais récemment, le concours a évolué, s'est adapté à l'époque, proposé des choses plus spectaculaires les unes que les autres, avec toujours ce petit grain de folie qu'on aime tant. Et puis, dans ce beau discours plein de positivisme où j'ai presque réussi à vous convaincre de vous débarrasser de vos vieux démons, il y a des trucs comme ça qui débarquent. Et là, vous me voyez me décomposer. Pourquoi ? Oui, pourquoi la Roumanie nous a fait tant de mal au concours de l'Eurovision 2017 à Kiev avec la chanteuse et yodeleuse Ilinka et le rappeur-chanteur Alex Florea. Rappeur ? Oui, évidemment. Parce que quand on veut relancer la mode du yodel, il ne suffit pas de mettre une mini Barbie au talon haut et à la jupe courte. Non. On pousse le vice encore plus loin en la plaçant en featuring avec un rappeur roumain, tout droit sorti d'un clip de Billy Crawford. You never show the spark that makes you glow. You always run away, you always say no to the right things. Don't try to hide the light inside of you. Today might be the day when you make it, baby. rappeur qui chante un peu du nez aussi. Hein. Le tout est exécuté devant des projections sur les écrans aux couleurs vives, sorties tout droit d'une pub pour la grande récré, nous incitant en toutes lettres à le yodeler. Yodeler quoi ? J'en sais rien, mais à le yodeler quand même.
Je connais pas.
Qu'est-ce que c'est ?
Oh mon Dieu.
Ça fait top.
Et alors, on n'oublie surtout pas d'encombrer la scène de deux canons gigantesques pour, à votre avis, cracher des paillettes, des rubans, des confettis, des soutiens-gorge. Mais si seulement, mes amis, si seulement, car ces deux canons géants sont là pour... Bah pour rien en fait. Alors au milieu de ce méli-mélo foot track, on n'oublie pas de filer un taz à la petite Ilinka pour qu'elle accélère. Avant que tout ça ne finisse par un viol de bouche d'Alex sur sa partenaire qui semble moyennement consentante. Alors mes amis, nous sommes en mesure de nous poser cette question. Qu'est-il arrivé aux Roumains ? Pourquoi emprunter à l'Allemagne et plus particulièrement aux Bavaroises girondes cette technique de chant si particulière ? Quel Roumain s'est réveillé brusquement un matin en disant « Je vais envoyer à l'Eurovision une minette et un beauf à inciter les gens à yodeler pour laisser apparaître la lumière et la joie en eux ?» Écoutez, écoutez. Encore, ça aurait été Stephen Foster dans la comédie musical Frankenstein Junior, je dis pas. Ou bien la Yodel Queen du génial film de 1988, Die Geyer-Vali, la fille du fauconnier en bon français.
Envoyez Hugo si tu nous entends.
Mais là, qu'est-il arrivé à la Roumanie, nation du raffinement et de l'élégance à la Dracula, à l'épais brouillard des Carpates et au mystère de ses montagnes vierges ? Eh ben rien. Car ils ont cartonné avec cette chanson
mais non,
en
mais
se classant septième du concours avec 282 points, dont 224 points au télévote. Alors tout cela me fait réfléchir. Suis-je trop élitiste ? Suis-je trop sévère comme Quentin ? Ai-je perdu une part d'émerveillement ? Mon œil et mon cœur sont-ils trop usés par trop de visionnage de prestations eurovisionnesques au fil des ans ? Et puis au final, mes amis, qui suis-je pour juger le taux de ringardise d'une prestation ?
Qu'est-ce que c'est que cette chanson ?
J'adore.
Non mais attends, mais c'est
j'adore
pas possible.
J'adore détester en fait, pour le coup j'adore détester.
2017 ouais. Donc on est dans la version moderne de l'Eurovision ouais.
Et ça cartonne.
Après, honnêtement, je pense que c'est un peu comme ta meuf là, de l'émission précédente là, qui chantait à la Lady Gaga.
La géorgienne.
Ouais, la improbable. C'est vrai que plus t'écoutes, plus t'apprends ouais. à apprécier.
Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau sur le côté ringard qu'il faut placer. Bon, on parlera un petit peu des jurys tout à l'heure, mais il y a des pays qui font la stratégie du vote du public. C'est-à-dire qu'ils abandonnent totalement l'aspect, parce que c'est 50-50 hein, le résultat, et ils se disent, bon, en fait, on y va franco dans le vote du public. Qu'est-ce qui plaît au public ? Faut que ça soit mémorable, faut que ça soit drôle, faut que ça soit original. Et on voit bien, hein, 90% des points ou 85% des points viennent du public. Ils se disent, on sait que les jurys vont détester, mais on s'en fout, on y va franco pour le public et on envoie tout.
Là-dessus, Keino en 2019, hein, ils étaient dans les choix au niveau du jury. Premier du côté du public, ouais. Spirit of the Night, une chanson, effectivement... Moi j'aime beaucoup.
J'adore aussi.
Mais qui est vraiment le type de chanson qu'on entend qu'à l'Eurovision avec ce passage en Samy. Il y a vraiment un
exactement.
Truc. Il se passe quelque chose effectivement avec cette chanson et voilà, c'est mémorable. Une fois qu'on a entendu les 26 chansons, on s'en souvient.
Ouais. Et numéro 1 du télévote voilà. Enfin, c'est... Et clair, tu vois. C'est...
Justement, ça joue un peu l'histoire du vote et du retour du jury. Parce que, tu vois, moi, l'Eurovision, quand tu regardes un peu ce qui s'est passé dans les années 90-2000, non, plus 2000, parce que le télévote arrive dans les 2000. On en a parlé dans les règles.
En 98.
Premier épisode des règles. N'hésitez pas à les réécouter. eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de René la taupe, quoi. Et les gens, ils vont pour faire le buzz, pour faire parler d'eux, et que les gens votent parce qu'on se marre. Et c'est ce qui a contribué énormément aussi à l'image ringarde du programme. Oui. Depuis le retour du jury, et tu le disais, Quentin, dans l'épisode précédent et encore dans d'autres avant, ça a complètement changé le paradigme sur la qualité des prestations qu'on envoie aussi.
Non, il y a un vrai saut, il y a une vraie bascule. 2009, quand les jurys reviennent en Russie, à partir de cette année-là, les juges reviennent, les pays se disent, bon, on ne peut plus justement envoyer du René la taupe. Alors, on peut, certains pays tentent le coup, mais il n'y en a plus que deux ou trois, alors qu'avant, il y en avait plus d'une dizaine.
Fabien.
Oui, et puis quand, en début d'émission, on se demandait, mais qu'est-ce que c'est, ringard, en fait, quelle est la définition donnée? En fait, j'ai tendance à penser qu'il y a le kitsch, qui est quelque chose d'un peu, qui peut être plutôt involontaire, voilà, on essaie de bien faire, en fait, bon, ça rend pas vraiment, voilà, il y a un truc, c'est un peu malaisant, hein, comme le Biélorusse en 2018 qui avait une super chanson, qui est éliminé en demi-finale parce que sa mise en scène, il y a du tir à l'arc qui lui fend le cœur, enfin, il y a des pétales de rose, enfin, il y a un truc,
il a
un dos fait de pétales de rose et tout, et donc ça, c'est pas possible, et là, on est vraiment dans le kitsch absolu, et je pense que de plus en plus, on va avoir des prestations qui vont se singulariser, mais on va plus être dans ce que les Britanniques appellent le camp, c'est-à-dire c'est une sorte de kitsch qui est très volontaire, de subversion des codes, du bon goût, et assumer aussi le fait que le mauvais goût peut être un bon goût.
Mais on l'a vu cette année, et du coup 2020 et 2021, avec l'Islande qui assumait complètement la folie.
Ah, c'est très juste.
Et la ringardise.
Mais quand c'est bien fait, ça fait pas ringard. C'est ça c'est vraiment une ligne
quand
de crête.
Quand c'est assumé, en fait, finalement.
Assumé et bien travaillé. C'est vraiment une ligne de crête. C'est-à-dire que malheureusement, on peut facilement basculer. Mais quand c'est bien travaillé, il y a un vrai projet là, avec son t-shirt où ils avaient leur logo en format un peu Tetris ou en Minecraft. C'était en Minecraft. Voilà, mais il y avait un package complet qui s'était très travaillé. Et effectivement, l'Islande, ça fonctionnait bien.
Pour ne pas tomber dans le piège, en fait, il ne faut pas se croire plus intelligent que la chanson, je pense. Il ne faut pas arriver en disant, oui, voilà, regardez, je vous chante cette chanson-là, mais on n'est pas dupe, hein, je sais que ce n'est pas très bon.
Il faut assumer.
Mais voilà, allez, je vous fais le spectacle. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait ça dans les années 2000 et qui ils se sont retrouvés dans les choux.
Cela dit, on dit ça. Et puis Sébastien Tellier assumait complètement son truc. Ça n'était pas pour autant que c'était de la merde, en fait, si tu veux. Donc,
c'était qui, Sébastien Tellier?
C'était Divine, le barbu. Le barbu avec les
de
soleil en 2008 en Serbie.
Enfin, moi, je n'aimais pas, pardon. Excusez-moi, je sens qu'on me fusille du regard.
Non.
J'ai aimé le côté décalé.
C'est une prestation à part, un petit peu, Sébastien Tellier, parce que bon, je ne veux pas être dans la diffamation. Mais je pense que quand il arrive sur scène, je ne suis pas sûr qu'il soit dans une sobriété totale.
Sans déconner.
Voilà. Et alors après, il y a plein de rumeurs, plein de légendes autour de cette fameuse prestation. Parce que si on regarde la prestation de la France cette année-là, il y a plein de faux plans. En fait, la caméra,
les
pieds, il sort du champ. Il n'y a rien qui est filmé comme il faut. Quoi.
C'est curieux.
Tout est assez dégueulasse. Alors voilà, il y a l'option « c'est voulu ». C'était décidé comme ça. Et il y a l'option, il a tellement été embêtant avec les réalisateurs, avec la production, lors des répétitions, qu'ils lui ont fait un petit peu un sale coup. Enfin, ils n'ont en tout cas pas cherché à peaufiner la réalisation au millimètre près. Quoi. Voilà.
Oh, dans les coulisses de production.
Le nouveau jingle bientôt pour la couverture de Turin.
Dans les coulisses de l'audition.
L'Eurovision, c'est un phénomène dans certains pays, c'est pas du tout ringard ailleurs, notamment là en Suède, en Pologne. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui différencie le programme? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays, clairement?
Parce qu'ils envoient des bonnes choses?
Alors, pas forcément, mais je pense que c'est dans beaucoup de pays, en fait. On peut le dire même très clairement, dans beaucoup de pays, c'est populaire, mais au sens positif du terme populaire. C'est-à-dire que on peut en rire aussi. C'est pas forcément qu'ils prennent le concours au sérieux, hein, mais c'est populaire. Les gens aiment regarder le concours. Des fois, il y a des performances drôles, ils en rigolent, mais il y a des performances aussi sérieuses et la chanson fonctionne et passe à la radio. Donc en fait, ils ont un regard plus objectif. Et l'Allemagne, par exemple, qui pourtant n'est pas très bonne à l'Eurovision, enfin, si on regarde l'historique, les audiences sont chaque année gigantesques.
Mais l'Angleterre, c'est pareil. J'ai un copain qui travaille à Londres et qui me disait, mais c'est très français, en fait, cette approche, parce que nous, en Angleterre, on finit toujours bon dernier ou presque bon dernier, alors qu'on a une industrie de la musique qui est quand même très développée et notamment populaire. Bah, en fait, nous, on regarde l'Eurovision dans les pubs le soir, on fait des soirées, personne ne se cache qu'il regarde l'Eurovision. Il y a vraiment...
Je ne me cache pas non plus.
Non.
Mais c'est, voilà, c'est le terme, c'est populaire. C'est-à-dire, c'est un phénomène de société comme un événement sportif ou autre. Et on dit, bah oui, j'ai regardé l'Eurovision et on s'est bien marré. Alors, au Royaume-Uni, ils ont quand même un regard un peu différent de l'Allemagne ou d'autres pays qui le prennent un peu plus au sérieux. C'est quand même plus la blague et le côté... On va rigoler de tous les autres pays pendant pas mal de temps.
Mais après, c'est pareil qu'un concours Miss France, hein, en fait,
oui,
hein, quelque
non, mais
part.
Oui.
Hein,
mais alors, par contre, certains pays, ils vont vraiment sérieusement. C'est-à-dire que c'est le show de l'année, avec des audiences qui frôlent les 80% d'audience, de part d'audience, qui sont quand même... Enfin, c'est gigantesque. Quoi. C'est l'Islande, voilà, les Suèdes, la Finlande.
Ils sont pas beaucoup en même temps en Islande. Hein.
Ah oui, mais en proportion.
Si on enlève les moutons.
Non, mais la proportion par rapport à la population, c'est 95%.
Ouais, 95%.
Il y a 5 chaînes de télé. Donc, c'est vraiment les gens veulent regarder ça.
Et même là, l'Eurovision Junior en Islande, alors que le pays ne participait pas, 96% d'audience. Quoi. Voilà, donc c'est,
non, c'est surprenant.
Ils vont faire leur entrée l'an prochain, je pense, dans le Junior. Mais oui, il y a l'Espagne aussi, où l'Espagne, ils ont des. Voilà, ils se prennent des tannées quasiment tous les ans. Les Eurofans espagnols notamment restent toujours au taquet. Il y a toujours une passion du public pour ça. Là, ils ont relancé le festival de Benidorm avec des émissions spéciales. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est traité dans les médias largement, sérieusement. Et ça n'empêche pas que les résultats ne suivent pas. Mais il y a vraiment une passion par rapport à ça.
Parce que depuis Pastora...
Et le pays un petit peu type, c'est la Suède, puisque c'est le Melody Festivalen qui est la sélection là-bas, et qui, jusqu'au début des années 2000, n'était pas vraiment un concours, c'était un peu en désuétude. Les résultats suédois ne suivaient pas trop. Et puis Christer Björkman est arrivé.
Mister Eurovision.
Voilà, Mister Eurovision. Il a relancé le Melody Festivalen. Il en a fait une machine de guerre. La Suède a enchaîné les bons résultats. Il y a eu une sorte de mainmise suédoise, une influence, une main invisible sur l'Eurovision qui se ressent encore aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des pays comme ça où c'est effectivement la sélection en tant que telle, c'est un moment fédérateur, c'est une émission de divertissement. Et voilà, et c'est bon enfant. Et c'est l'occasion aussi de découvrir des chansons, parce que les chansons de la sélection suédoise, même celles qui ne gagnent pas, elles passent à la radio, ça
elles
lance
sont
des carrières.
Dans le monde entier, surtout à d'autres artistes.
Oui.
Donc,
en plus, oui.
Une anecdote qui est très parlante sur l'évolution de la perception du concours, en France comme ailleurs d'ailleurs, c'est Mika. Le chanteur Mika. Oui, je vais en parler, puisque en mars 2015, quand je crois que c'est l'Angleterre qui lui propose d'interpréter une chanson au nom du pays en tant que mercenaire pour l'Eurovision, eh ben, il décline et il fait ce témoignage de dire que non, mais de toute façon, les chansons à l'Eurovision, c'est de la merde. Et c'est hyper violent, mais ça rejoint globalement l'état d'esprit qu'ont les maisons de disques, notamment en France à ce moment-là, c'est-à-dire que le programme est capable de plomber des carrières.
Il faut dire que Mika a écrit vraiment que des bonnes choses, donc c'est pour ça que...
Oh, tu vas un peu fort. Moi, j'aime bien Mika. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en 2022, il est pressenti. Toutes les rumeurs sont présentes pour co-présenter l'émission. C'est-à-dire
finalement,
que...
c'est pas de la merde.
Non, mais il y a que les cons
quand
qui ne changent pas d'avis.
Chèque.
On peut très bien, tu vois, aussi accepter. Et c'est tout le travail qui est fait par de nombreux pays et par le concours en lui-même, puisque beaucoup parlent de la marque Eurovision. Il y a des produits dérivés qui sont mis en place. Sur YouTube, tout le monde peut y accéder. L'ouverture à l'Australie. Enfin, il y a des choses qui sont faites pour pouvoir travailler la notoriété du programme depuis de nombreuses années. Oui, Fabien.
Oui, et puis Mika aussi, depuis, il a été coach dans The Voice, dans le X Factor italien. Et justement, les candidats de The Voice, on l'a dit précédemment, à l'Eurovision, il y a régulièrement, la majorité des candidats viennent d'un télécrochet. Quoi. Donc en fait, c'est en fait, ce serait un peu être en opposition avec ce qu'il fait. Quoi. C'est-à-dire, je suis coach dans The Voice, je vais voir passer des candidats potentiellement qui vont aller à l'Eurovision et je vais dire que c'est de la merde. Donc bon, il a peut-être eu le temps de revoir aussi son opinion par rapport à ça. Et puis il fait cette déclaration en 2015. Donc il est entre moustache et Lisa Angel. Donc c'est un peu la phase difficile pour la France. Mais effectivement, moi, je pense qu'il sera présentateur à
Turin.
Je pense qu'il sera présentateur à Turin. Et d'ailleurs, je pense que d'ici à ce que ce soit diffusé le podcast, on saura.
Oui.
Donc, oui. Voilà. Mais voilà. Donc, et ça sera, je pense qu'il aura la patte internationale qu'il faudra pour animer tout ça ou pour être en green room.
Et puis, au-delà de Mika, ça me fait penser au fait que pas mal de, d'États, enfin, pas mal de télédiffuseurs, mais y compris la France, hein, parfois, on envoie des gens connus, mais qui sont un petit peu bas dans leur carrière. C'est-à-dire, ils ont un trou d'air, par exemple. Et c'est pas lui faire... C'est pas la critiquer, mais Patricia Cass, en 2009, elle était un peu disparue des radars depuis pas mal d'années. Donc, il y a un côté où, quand des artistes déjà connus acceptent de faire l'Eurovision, c'est pour, non pas faire un tremplin, mais pour relancer leur carrière. Et elle a fait une tournée européenne ensuite avec son album Cabaret, etc. Donc, et elle était très connue dans les pays de l'Est. Vincent. À un moment, c'est une stratégie. C'est une stratégie
attends,
de la
Vincent,
France.
Attends, Vincent, vous voulez réagir là-dessus.
C'est vous, il l'a dit.
Mais ça, pour le coup, de la France, c'était très intelligent, de France Télévisions. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est l'une des artistes francophones, les étrangères plutôt, la plus connue en Russie et dans les pays de l'Est. Et ça n'a pas loupé. Dans les votes des gens dans les pays de l'Est, elle a cartonné.
Alors justement, pour séduire à l'Eurovision, il faut séduire les autres pays. Et moi, j'apprends qu'en fait, les pays font des tournées européennes pour aller présenter la chanson. C'est-à-dire qu'on va dans les instituts internationaux, on va dans les ambassades internationales pour séduire le quidam étranger.
Et on en revient, on en reparlera dans un autre épisode, mais on a un peu déjà abordé ce sujet-là sur le fait que tous les pays ne jouent pas le même jeu à l'Eurovision. Et certains pays, je ne sais pas, une grosse dizaine, on va dire, jouent le jeu, mais jusqu'au bout. Et effectivement, ils mobilisent leur réseau diplomatique, ils mobilisent leur relais politique dans le pays. Et vous avez, avant l'Eurovision, des candidats qui font 15 dates partout en Europe pour présenter la chanson, pour déjà qu'on puisse l'entendre à la radio, pour que ça fasse un petit peu le buzz, etc. Donc ouais, c'est une vraie campagne électorale.
Ou qui détourne le PIB pour faire de la pub.
Ça, c'est Malte.
Justement, cette technique d'aller faire des tournées à l'international, c'est quelque chose qui est très présent chez les maisons de disques. C'est quand même à la base censé être un concours d'État qui vient de présenter une chanson de type national pour faire
rayonner
la culture européenne. Est-ce qu'on ne change pas un peu l'aiguille d'axe en se disant bah, « Tiens, maintenant, ça devient plus un concours de maisons de disques qu'un concours d'État ?»
Bien sûr, c'est-à-dire que derrière les gros pays, vous regardez, il y a deux grands majors du disque. Vous avez Sony BMG.
Et Universal.
Voilà. Et vous regardez qui sont, quand tu vraiment, et on en reparlera, mais on reçoit des publicités parfois ciblées sur les réseaux sociaux quelques jours ou quelques semaines avant l'Eurovision. Derrière ça, il y a des boîtes de prod, enfin, il y a les studios qui poussent. Et ça me fait un peu penser, pour faire une analogie, avec un peu les campagnes électorales aussi, des studios de cinéma qui soutiennent les candidats pour leurs films, pour les Oscars. Il y a une vraie campagne qui est menée pour récolter des votes et pour avoir l'Oscar. C'est un peu la même idée.
Fabien.
Oui, c'est pas la panacée cependant ces concerts, parce que je pense que si on avait le candidat polonais ou le candidat suédois qui arriverait en concert à Paris ou à Lyon ou je ne sais où, je suis pas sûr que c'est ça qui inciterait les gens, les Français, à voter le soir de la finale de l'Eurovision. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a les Bulgares qui ont une date prévue en France. Je ne suis pas sûr que ça arrange les enfin, que ça leur fasse ramener plein de points. Mais c'est aussi, en fait, quand on dit oui, de toute façon, tous les pays, les pays votent entre eux. En fait, c'est aussi que les pays, il y a une sorte de culture commune et de culture musicale commune. Le schlager suédois, bah, ouais, il va être bien perçu en Norvège, au Danemark. Donc, bah, que les candidats aillent faire des concerts ci et là, ben c'est bien. Et c'est normal. Donc il y a effectivement le côté maison de disque, mais il y a le fait qu'il y a un public aussi pour ça. Alors qu'en France, je ne suis pas sûr que le schlager, en dehors de l'Alsace, il y ait énormément de coins qui soient très friands de ça.
C'est ce que nous, on trouvera ringard, du coup, justement, exactement. Mais ouais. Je ne l'ai pas pour d'autres. En fait.
Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est vrai que la France, elle a fait cette stratégie-là de manière assez maligne en allant chanter dans la sélection ukrainienne, donc elle y est allée avec Bilal, elle y est allée avec Madame Monsieur et Alma, je crois.
Alma, oui. Raté.
Raté, mais je crois que dans le télévote ukrainien, on a eu pas mal de points. Donc après, est-ce que c'est dû au fait qu'il y a eu une première notoriété par rapport à la sélection nationale? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis il y a Barbara Pravi, là, elle s'était produite en Espagne. De même que John Tears et bien sûr le candidat espagnol, une semaine d'intervalle, voilà, Blas Canto. Ils se sont tous produits à une semaine d'intervalle dans une émission qui était à la fois mi-documentaire, mi-divertissement. J'ai pas très bien compris en quoi ça consistait, honnêtement. Je crois que c'était un documentaire sur une chanteuse culte en Espagne. Voilà, et donc Voilà, justement. Servait de bande originale de l'un des épisodes de ce documentaire. Et donc, au final, d'ailleurs, ça avait ça monté dans
Spotify. Et pour parler de voilà, et une chose que moi, j'ai découvert en travaillant cet épisode encore une fois, la Tour Eiffel a été privatisée l'année dernière pour présenter la chanson Voilà à tous les ambassadeurs européens. C'est-à-dire que ça va au-delà finalement d'un concours de chant, c'est-à-dire qu'on vient travailler le soft power politique. Et non, mais c'est une anecdote.
Non, mais bon, tu dis ça et Tom Leb a chanté sur la Tour Eiffel et pour autant, il est parvenu en 2021.
Non, mais je veux dire par là, c'est-à-dire que l'Eurovision dépasse juste le cadre d'un télécrochet. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, on va chercher à faire valoir et c'est très justement dit par Laurent Fabius, une image de représentation nationale. Quelle est l'image qu'on a, quelle est l'image qu'on reflète quand dans une compétition internationale, on finit dernier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ?
Avec du kitsch ou du ringard, et bah forcément, ça envoie un mauvais message. Et je rebondis sur Barbara Bravi ou d'autres. Bon, là, depuis avec quelques années, depuis la pandémie, c'est moins présent, mais c'est intéressant de voir la semaine des répétitions ou les deux semaines des répétitions, il y a des soirées qui sont organisées par les pays. Et à chaque fois, ça se passe dans l'ambassade. C'est-à-dire que, par exemple, 10 jours avant la première demi-finale, l'Estonie, un pays n'importe lequel, mais je sais que les pays de Baltique le font, l'Estonie organise une sorte de buffet cocktail et avec sa candidate qui fait le show. Et parfois, à plusieurs soirées, en fait, il faut aller courir différents lieux parce que toutes les ambassades essayent de mettre en avant, leur candidate et de la soutenir via le réseau diplomatique.
Alors, 12 points, c'est un podcast qui décrypte l'Eurovision. Mais le concours Eurovision de la chanson. Donc, qui dit chanson dit...
Hurleuse ?
Et oui, bah oui, la transition est rapide. Mais c'est tout à fait ça.
Je voudrais tout d'abord vous faire part de ma souffrance, les amis. Oui, souffrance et pas moins, parce que vous n'imaginez pas à quel point il est difficile pour moi de faire rimer ringardise et hurleuse. Mes pauvres hurleuses de l'Eurovision. Vous trouvez pas qu'on les a déjà assez stigmatisées comme ça ? Vous voulez que j'en rajoute une couche ? Vous voulez ma mort, c'est ça, hein, quoi, Thomas ? J'ai pas été tendre avec Lisa Angel. Non. Oui, alors bon, ça, c'était... Oui, on a dit qu'on en parlait plus, sinon on va encore m'accuser de faire du bashing. Quel monstre tu fais, Thomas ?
Ce n'est pas lui, le monstre, Gaston, c'est toi !
Oui, hein, pourquoi ? Bah, parce que j'avais envie, après tout, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Trêve de bavardage, parce que j'en ai chié quand même pour arriver à pondre une chronique décente. Néanmoins, si on suit un peu ce qu'on a dit pendant cette émission, on s'aperçoit que le ringardisme vient surtout d'une vision datée que pourraient avoir les gens de l'Eurovision. Il m'a donc fallu ouvrir mon grand placard à archives, enfin YouTube quoi, pour dénicher une hurleuse tout adaptée à notre sujet parce que bande de petits chanceux, c'est pas une fois, ni même deux fois, mais bien trois fois que cette personne a représenté son pays au grand concours de l'Eurovision. Alors accrochez-vous bien à vos choucroutes, mes petits chats, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un monument digne d'un fjord suédois. J'ai nommé la seule, l'unique, Carola. Never gonna run away, I'm not gonna hide. I know just what I feel inside. Mais alors Vincent, d'où vient-elle ? Alors en préambule, j'ai indiqué qu'il s'agissait de la seule, l'unique. Oui, parce que Carola porte le même prénom que cette eau minérale que l'on trouve chez nos amis alsaciens et dont Estelle Lefébure nous a gentiment fait la promo en 99.
Bleu, rouge, vert, on a tous une Carola dans la vie.
Mais trêve de digression. Carola est une chanteuse et compositrice suédoise née le 8 septembre 1966. Elle a fait ses débuts très tôt à la télévision dans des compétitions de chant, c'est dire quand même, hein, si c'est leur truc au suédois, le chant là. Et c'est en 1983, alors qu'elle est âgée de 17 ans, qu'elle gagne son premier Melody Festivalen, on ne le dira jamais assez, hein, mais c'est le concours de sélection de chansons pour représenter la Suède à l'Eurovision, ce qui lui permet de défendre les couleurs de son pays et de remporter la troisième place au grand concours de l'Eurovision 1983 qui se déroule cette année à Munich avec sa chanson Framling.
C'est
quand Carola débarque sur la scène allemande avec son tube Framling, étranger en bon français, elle a le cheveu court et bouffant, l'œil qui pétille, le rouge à lèvres, le t-shirt girafe et le pantalon de smoking qui lui fait la taille fine et le bassin large. Une vraie Stéphanie de Monaco à l'époque de Comme un ouragan. Carola, son truc, c'est la voix, parce que déjà, elle a un sacré pétoire. Eh, vous avez entendu la petite modulation là, hein? Mais c'est surtout, et c'est là que nous allons avoir notre fil rouge de cette chronique, son truc à Carola, c'est la danse. Carola, elle est jeune, elle est fraîche, elle vit avec son temps et du coup elle est très corée, hein. Pendant sa prestation, elle se dandine allègrement de gauche à droite, step touch, au rythme de la chanson, avant le mouvement final sur les trois coups de pipeau, gauche, droite, sans bras en l'air. Bon, là, c'est du podcast, alors faut se l'imaginer, c'est plus savoureux en vrai. Hein. Framling, c'est le tube de Carola. C'est ce qui va la propulser au rang de star suédoise par excellence et qui va lui faire faire des concerts dans toute l'Europe. S'en suit divers albums pop, rock et même son premier album de Noël parce que Carola, elle vient du froid, elle est très album de la Noël. Hein. Alors, en 90, elle retourne au Melody Festivalen avec la chanson Mit Jet Aventir au milieu d'une aventure qui se classera deuxième, raté. Mais qu'à cela ne tienne, elle se représente l'année suivante en 91 avec le tube Fangav Aven Stormvid, prisonnière d'un ouragan d'amour. Quand je vous disais qu'il y avait un rapport avec la princesse du rocher, hein, qui lui permettra de représenter son pays au grand concours de l'Eurovision 91 à Rome.
On dirait Dorothée.
Je vais essayer de passer très très vite sur cette édition de 1991, sinon on va encore faire pleurer Quentin. Vous allez comprendre pourquoi. Quand Carola débarque cette année-là, elle a bouffé du lion. La petite est survoltée. Elle a le carré dégradé qui vole avec la wind machine, la boucle d'oreille pendante, le smoking vert, le fuseau à paillettes. Et ouais, c'est les années 90, hein, faut vivre avec son temps. Encore et toujours, le pétoir, attention, modulation. Mais surtout, la Corée! Et alors là, on a passé un level. Non seulement elle est accompagnée par deux grandes gigues en costard qui font des grands jetés derrière elle, mais surtout, elle donne tout, putain. Mash potatoes, tête, tour à droite, sans oublier la pause finale avec le bras en l'air et le wouh sur la dernière note. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à...
Chanson, à l'endroit, à l'envers.
À l'envers, à l'endroit.
Karen Cherise, par devant, par derrière.
À l'envers, à l'endroit.
Merci Jean-Pierre Foucault. Eh bien, ce soir-là, mes amis, ce soir-là de 91, l'ouragan de l'amour rafle le trophée puisque la Suède est déclarée vainqueur face à la France avec C'est celui qui dit qu'il y a Damina. Pardon, Quentin, ne pleure pas. Après un ex-aequo et un comptage de points sans précédent à l'Eurovision. Pour vous la faire courte, les deux pays étaient ex-aequo. On a donc compté le plus de 12 points. Ex-aequo encore, le plus de 10 points. Bim, la Suède. Au revoir, Amina. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Paf, on n'en parle plus. S'ensuit pour Carola différents albums, des tournées dans toute l'Europe et en Chine, des rôles dans des comédies musicales comme Maria dans La Mélodie du Bonheur ou encore Fantine dans Les Misérables et même la voix de Myriam dans le doublage suédois du Prince d'Égypte. You will when you believe. Je n'insiste pas du tout sur ce qui se passe ensuite parce que album, best-of, tournée, best-of, album de Noël numéro 123, album sur Dieu. Ah, gardez bien ça en tête pour la suite, c'est important. Et tout cela nous emmène en 2006 quand Carola revient représenter la Suède à l'Eurovision avec son tube.
Ah mais alors ça c'est génial parce que celle-là je la connais et alors du coup je veux absolument que tu nous parles de sa performance à l'Eurovision 2006.
Et c'est là que le bas blesse, Thomas. Parce que Carola, elle est chevronnée à l'exercice. Hein. Elle a deux Eurovisions dans les guiboles, plus une victoire. Elle n'est pas là pour niaiser. Hein. Et à l'aube de ses 40 ans, elle nous ressort les vieux filons qui ont fait son succès. Perruque au vent, peau auto-bronzée, trop de blush sur les joues comme si elle avait pris deux gifles en coulisses avant de monter sur scène. Combi en lamé, cordelette à paillettes, botox dans les pommettes, ouais là ça commence à se voir, et grande traîne en mousseline bleue dont elle se débarrasse pour faire ce qu'elle sait faire de mieux. Danser, pardi ! Hanche, jeté de bras, retourné de tête. Avant la note beuglée. Pendant que ces choristes danseurs agitent des grands drapeaux en mousseline transparente, bref, on ne comprend rien. Parce que, en effet, si toutes ces techniques ancestrales ont fait le succès et la carrière de Carola, malheureusement, en 2006, eh ben, c'est déjà un peu daté. Et même si elle chante de tout son cœur sur cette superbe chanson pop dance endiablée, tout cela donne un peu l'image de la belle-mère de la mariée qui en fait des caisses pour voler la vedette à sa bru. Alors les jeunes, on danse pas. Oh, j'adore les jeunes. Oh non, pas trop de champagne, sinon je vais être paf. On en connaît tous une comme ça. Hein. Ce soir-là, à Athènes, Carola finira tout de même cinquième du classement, prouvant que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
Mais depuis alors ?
Et depuis, Thomas, je ne vais pas m'étendre sur sa carrière musicale, essentiellement composée de tournées, d'albums de Noël et d'un flop en 2008 au Melody Festival M, car la carrière de cette dernière s'est malheureusement fortement freinée, victime qu'elle est, comme toutes les femmes après 40 ans, d'une sévère politique d'agisme. Elle est aujourd'hui plus connue pour ses phrases que dans les tabloïds qui ressortent, des phrases qu'elle aurait pu dire par le passé en fervente chrétienne qu'elle est. Et je vous cite, hein, « Les homosexuels peuvent devenir hétérosexuels à travers la prière. »
Okay.
Et que l'homosexualité resterait toujours contre nature pour elle. Pour se défendre, elle a fait plusieurs déclarations comme quoi elle aimait les gays, que deux de ses danseurs étaient gays et qu'elle les trouvait great. C'est bizarre, ça me rappelle mon jambon star Morano et son amie tchadienne plus noire qu'une arabe. Bref. En plus, récemment, elle aurait déclaré avoir eu une aventure avec une femme dans les années 80. Ouh. Bref, sur les réseaux sociaux, c'est surtout devenu une Real Housewife de 55 ans, liftée jusqu'au chignon, qui, malgré les polémiques, reste une icône de l'Eurovision. Alors que conclure de tout ça ? Faut-il renouveler sa garde-robe ? Mettre plus de fond de teint, faire du pilate et limiter le sucre. Carola a fait tout ce qu'elle a pu pour évoluer avec son temps jusqu'à ce que l'implacable sablier du temps la rattrape et fasse d'elle une icône ringarde et démodée. Alors oui, Carola, oui, t'es too much. Oui, tu bouges la bouche quand tu chantes. Oui, tu sens la Hellnet. Oui, tu danses comme la tante de Quentin au mariage de sa sœur. Mais ce soir-là de 2006, cette soirée de tous les possibles, Carola, tu étais et tu resteras invincible.
Bravo.
J'ai laissé les applaudissements enregistrés parce que j'avais peur que vous m'applaudissiez pas. Non, mais c'est non. Gentil.
C'est vrai qu'on applaudit tous autour de la table. Oui.
Bah, Carola, c'est quelque chose.
Alors, on revient sur le thème de l'épisode. L'Eurovision est-elle ringarde ou pas ? On a discuté de la ringardise vue de la France, de la ringardise ou de la hype du programme d'un point de vue international. Et on se rend compte que bah, globalement, c'est pas chez tout le monde pareil, et pour plusieurs raisons. Est-ce que vous avez en tête une prestation ringarde, là, qui, quand vous parle l'Eurovision, claque, on a un claquement de doigts, vous revient à l'esprit, vous
oui, Verka Verduska.
Eh bien, c'est exactement celle que j'allais dire.
J'adore.
Pour moi, c'est un symbole. C'est alors, un symbole de la ringardise de l'Eurovision.
Je suis pas d'accord.
Oui, mais c'est
je
bien
rebondis,
fait.
Exactement, je rebondis sur ce que disait Fabien. C'est voulu. C'est voulu, et le sous-texte, et en fait, beaucoup plus intéressant que le côté kitsch pailleté.
Ouais, pour moi, c'est Camp, le Verka Sardouchka. Ouais. C'est une artiste qui a. C'est un personnage de drag queen, en fait. Hein. Camp, Verka.
Ouais, mais tu vois, tu penses que c'est assumé.
Ah
moi,
oui.
Moi, d'un point de vue public naïf, je le vois pas du tout comme quelque chose d'assumé. Je le vois comme quelqu'un qui vient faire son show à la kermesse du coin, à l'inverse des Islandais. Où là, en fait, t'as une scénographie qui te pousse à croire que c'est pas too much.
Ouais,
enfin, tu vois que c'est plus travaillé.
Je trouve que justement, Verka, c'est travaillé, en vrai, parce que, comme disait Fabien, c'est un personnage à part entière. Si tu veux des prestations kitsch, il y en a le Dracula,
oui.
Par exemple.
Oui, c'est vrai.
Le Dracula, c'était... Enfin, là,
merci
pour
encore la Roumanie.
Là, pour le coup, non. Tu vois, enfin, là, c'est ringue. Vraiment.
Virginie Pouchin, je trouve que c'est une prestation. voilà, il n'y a pas de cocorico là, mais bon, elle arrivait, je pense, sur un champ de mine avec ses tongs, quoi. Voilà, c'est vraiment le truc. C'est vas-y.
Pieds nus dans une salle de chute.
Il n'y a pas eu un gros budget de France Télé cette année-là. Donc après, voilà, le chef de délégation de l'époque, Bruno Berberès, a fait son maximum pour...
pour développer le produit.
Mais effectivement, c'était compliqué. C'était les années, justement, où, comme on l'a dit, France Télévisions n'investissait plus dans ce programme qui était en désuétude. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Il fallait participer parce que membre de l'UER, mais voilà. Pas d'intention plus que ça.
Quoi qu'il en soit, vous qui nous écoutez, vous l'avez compris, nous, notre ambition, c'est de vous convaincre de regarder le programme pour au moins cette année, si vous n'aviez pas eu l'habitude, et sinon, vraiment, de vous y intéresser comme nous, on le fait. Car l'Eurovision, aujourd'hui, moi, je vous donne la réponse, c'est très loin d'être ringard. Et je vous propose de passer tout de suite à la dernière séquence du programme, qui s'agit du jeu des...
12 points ah.
Alors pour changer un peu l'ordre des choses, moi je vous propose de commencer cette fois.
Première nouvelle.
Donc je vous rappelle qu'on a 1 minute 30 pour convaincre à l'issue de nos présentations. Fabien, il faudra que tu donnes un 12 points à l'un de nous trois et une note entre 1 et 10 à l'un de nous trois également. Voilà. Alors moi je commence tout de suite, attention, 1 minute 30
Il faut préciser, que
oui,
le jeu des 12 points est vraiment thématisé sur les chansons ringardes à l'Eurovision. Donc... honnêtement, le gagnant peut être complètement surprenant aujourd'hui.
Bon, attention, vous êtes prêts ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, quand on m'a dit de choisir une chanson ringarde, il a été très difficile pour moi de porter un choix parce que j'ai pas en mémoire, tu vois, des années d'Eurovision comme vous pouvez l'avoir. En revanche, pour moi, qu'est-ce qui est ringard ? C'est les années 80. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être encore plus ringard que les années 80 ? Non, pas mon année de naissance. Ah, peut-être. Eh ben, allez, 1985, je suis allé voir ce qu'on a fait, nous, la France, en 1985. Et bon sang, quel grand mal m'en a pris. J'ai découvert Roger Benz qui interprète cette magnifique chanson. Femme dans ses rêves aussi. Alors, le titre de lui-même ne veut rien dire. Femme dans ses rêves aussi. Hein. Mais alors, il faut vous imaginer le mec avec un costard gris beaucoup trop large, avec des épaulettes beaucoup trop larges, et, comble du kitsch, le stylo, vous savez, dans la pochette. Donc, Roger chante cette chanson. Femme dans sa vie, dans ses rêves aussi. Chevrotte énormément, tu détesterais la façon dont il chante. Tape du poing quand il est dans un bridge musical, vous savez, c'est femme dans ses yeux écrit ses aveux, femme élégance et femme qui danse. On est sur un niveau de kitschissime, il me reste 10 secondes qui vaut quand même le détour parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui tout le monde a oublié Roger Benz.
Oui,
votez
oui.
Pour moi, c'est maintenant que ça se passe. C'est parti, c'est à toi, 1 minute 30.
Alors les amis, aujourd'hui, on retourne à Bakou, en Azerbaïdjan, pour l'Eurovision 2012. Je vous présente les candidats que la Russie a envoyés, les Buranovski Babushki, autrement dit, les mamies de Buranovo.
Ah oui !
Le nom de leur petit bled dans lequel elles habitent. Ce sont donc 6 mamies russes de 70 à 85 ans qui nous chantent « Party for everybody, come on and dance ». Encore de la danse de Carola. Elles nous viennent d'Outmourtie, une petite région du centre de la Russie. Alors, on a un mélange bien ringard de la techno-électro-russe avec des instruments folkloriques. Nos 6 mamies, d'ailleurs, sont en habit traditionnel oudmourt. Vous chercherez ça sur Google. Elles sont quand même vraiment mignonnes et attendrissantes, ces petites résidentes de l'EHPAD de Buranova. On pense directement à nos petites grand-mères. Bon, on va quand même pas se le cacher, c'est bien ringard. La mise en scène aussi, d'ailleurs, parlons-en, tiens. Au milieu de la scène, on retrouve un four à pain en carton-pâte, digne des décorations cheap des spectacles de fin d'année de l'école de ton neveu. Ce four à pain fume pendant les 3 minutes, mais surtout, il tourne sur lui-même. Et nos petites mamies, elles sont toutes contentes, elles chantent, et en même temps, elles insèrent dans ce petit four à pain des petits tas de pâtes à pain, et à la fin de la chanson, elles sont toutes contentes de sortir leur petit pain tout chaud et de nous le présenter sur un petit plateau. On est vraiment au comble du kitschissime. Alors, vous l'aurez compris, ici, tout est ringard, mais nos petites mamies, elles sont mimi. Alors, si vous ne voulez pas qu'elle termine maltraitée en EHPAD à Neuilly sur Seine, votez pour elle et donc votez pour moi.
Ah, le bon mot,
bien joué,
le bon mot. Bravo, qui colle l'actualité.
Nous sommes un média d'opinion et nous suivons l'actualité.
J'espère que vous êtes prêts parce que moi, pouf.
Eh ben, c'est parti.
Alors, pour faire honneur à notre thème du jour, j'ai choisi une performance absurde sur une musique pourtant pas si mauvaise. L'interprète, c'est Slavko Kalesic, qui représente son pays, le Monténégro, au grand concours de l'Eurovision 2017 à Kiev avec sa chanson Space. C'est un morceau disco-pop avec tout un tas de trompettes qui donne envie de danser les bras en l'air si seulement elle était bien chantée. Alors, en studio, ça passe, en live, c'est une catastrophe. Passons très vite sur le physique de ce bon vieux Salvo, qui est une gym queen parfaitement dessinée, lèvres charnues, œil ténébreux, barbe taillée, car ce n'est pas ce qui fait la force de la performance. Il commence à chanter sa chanson en grande jupe, en soie bleue nuit et en t-shirt moulant très transparent, laissant apparaître son torse ciselé. La batterie retentit et là qui vire sa jupe pour laisser apparaître son pantalon scintillant affublé de petites franges tout aussi brillantes qu'il fait bouger dans une chorégraphie de bassin rondement exécutée. Bon, assez tourné autour du pot parce que les connaisseurs savent bien que ce qui fait toute cette performance, c'est bien sûr l'immense tresse noir corbeau planté en haut du crâne de Slavko qui lui descend jusqu'au cul. Et alors, avec cette tresse, il fait tout. Du lasso, du ruban, du tournage de tête à la corona quand elle chantait « This is the rhythm of the night ». Bref, c'est absurde, c'est ringard, c'est gênant. On se dit pourquoi, mais pourquoi? Et pourtant, on a envie de regarder encore et encore pour comprendre la signification de tout ça, mais il n'y en a pas. Pas de panique, il a fini 16e de sa demi-finale et n'a pas pu présenter sa chanson à la finale. Alors certains crient au génie, d'autres au secours. Quoi qu'il en soit, faites-vous votre propre opinion en votant pour moi.
Oh, sur le ring,
on a
bravo.
C'était très bon aujourd'hui.
Ouais, ça a été bien, j'ai bravo. Écoute, je vois très bien la prestation que tu viens de décrire. Je dois vous dire que le choix va m'être difficile, mais on se donne 10 secondes pour l'arrêter. C'est parti. Alors c'est parti, on rend nos points. Bah, vu que j'ai commencé, je vous propose de commencer de nouveau.
Très bien.
Alors, je donne ce soir mes 12 points à toi, Quentin. Oh, parce qu'en fait, les babouchkas m'émeut un peu. Et oui, on s'est pas fait chier pendant 2 ans à surmonter cette pandémie pour snober les vieilles personnes. Et Vincent?
Bah oui, dis-moi.
Eh ben écoute, je te donne 8 points.
Oh, c'est fort
8
gentil,
points parce qu'il ne mérite pas 10, parce que c'est quand même très kitsch. Mais la plastique du monsieur me fait malheureusement voter contre mon gré.
Très bien, merci.
Je vote?
Vas-y.
Alors, je donne 12 points à Vincent.
Bon, mais pourquoi?
Alors, je suis très partagé. J'ai envie de voir Slavko mourir. Parce que justement, ça, pour moi, ça détruit justement tout le travail depuis des décennies. Et en même temps, je trouve qu'il est allé tellement loin,
oui,
que du coup, on comprend. On comprend le côté 8e degré. Je trouve qu'il se prend pas au sérieux et
c'est
du coup,
possible,
ça marche.
C'est possible.
Voilà, ça marche. Et Thomas, alors, tu m'as plutôt bien convaincu, donc j'ai mis 8 points. Parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne le ringard des années 80. Et je n'ai aucune idée de ce que ça va être, donc je suis quand même impatient. Voilà.
Eh bien, moi, je vais donner mes 12 points à Quentin.
Merci,
moi, alors, tu m'as eu sur cette dernière phrase et puis sur le pain. Voilà. Mais en vrai, j'aime pas non plus. Bon, ouais, c'est pas grave. Et Thomas, je connais pas, hein, donc je t'ai attribué la moyenne, hein, mais tu m'as pas eu à chevrotage, si tu veux, donc je t'ai donné 6 points. Merci Thomas.
Je savais que ça allait être tendu. Allez, les années 80, c'est quand même toujours quelque chose. Alors, le suspense reste entier, puisque nous avons cette semaine encore un 4e votant.
Alors, est-ce que je commence par les points les
oui,
plus bas?
Oui, 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 fais durer le suspense, tu as raison.
Alors, j'attribue 8 points à Quentin.
Oh!
Car voilà, moi, c'est pas un grand souvenir de l'Eurovision. Je n'aime pas trop qu'on instrumentalise les petites mamies. voilà, j'ai quand même mis 8 points parce que je crois qu'il y en a une qui nous a quittés depuis au moins
une. En fait,
une,
très régulièrement, voilà. En fait, il y en a qui nous quittent
oui,
parce que c'est un groupe permanent, mais qui se renouvelle. Tous les 5 ans, il y a à peu près un nouveau membre.
Merde. C'est comme l'Académie française.
Exactement.
C'est ça, voilà. Sauf qu'elles font du pain. Même si après, avec cette période de confinement, j'aurais pu ressentir une forme d'empathie sur le côté.
Mais on a bien compris que tu enverrais ta mamie à la vie. J'ai bien compris.
Voilà. J'attribue... Bah là, il faut que je donne mes 12 points.
Oui, c'est ça. Le suspense est insoutenable.
Eh bien, j'attribue 12 points à Thomas.
Bravo,
Thomas.
Ça me fait trop plaisir d'avoir 12 points.
Et non pas parce que ça relance le suspense, c'est parce que j'ai revu ce concours il n'y a pas si longtemps que ça, et que ce cher Roger Alors qu'on pouvait voter pour son propre pays, hein, je l'avais mis dans mon top 10 perso.
C'est pas possible.
Et je l'avoue, je l'assume. Hein, j'aime écouter cette chanson de temps en temps. Enfin voilà, il y a un truc que je trouve efficace. Après, visuellement, effectivement, c'est pas la prestation que je re-regarde. Ce n'est pas une prestation que je me fais sur YouTube. Mais voilà, il y a quelque chose d'hyper entraînant dans le refrain. Et puis dans les années 80, je trouve qu'il y a eu pire avec les cocktails chics notamment.
Rien que le nom déjà.
Voilà, avec une chanson qui s'appelle Européenne, ça envoie du bien. Allez voir ça.
Eh bien écoutez, c'est Quentin qui remporte ses 12
bravo,
points.
Quentin. Et je n'ai pas donné, j'avais 10 points.
Oh, c'est gentil quand même.
Pour ce cher Slavko, par solidarité capillaire.
Merde, ça veut dire que t'es dernier. Oui. Je suis désolé.
Il y a un moment, j'ai cru que j'allais être deuxième.
Oui, moi aussi j'ai cru.
Non, c'est un échec total.
Moi, je faisais la gueule, être dernier. Oui, bah merci.
Voilà, bah c'est la solidarité capillaire. Voilà. C'est un artiste qui effectivement se donne à fond, il est dans son délire. Bon, voilà, il émane quand même quelque chose de sympathique
oui.
de ce cher Slavko.
Il chante mal.
Mais voilà, après.
Il est allé vraiment tellement loin que ça passe.
Oui, c'est ça, tellement loin que ça passe. Eh bien, écoutez, c'est ainsi que se termine cet épisode. L'Europe Vision, j'allais dire. De l'Eurovision ringarde point d'interrogation. On espère qu'on vous aura intéressé au sujet et surtout au concours Eurovision de la chanson. En attendant, on vous invite évidemment à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Spotify depuis peu vous donne la possibilité de nous mettre des étoiles. Donc si vous nous écoutez via Spotify, n'hésitez surtout pas à nous mettre des étoiles.
Le maximum, hein, sinon ça sert à rien.
5,
oui, s'il vous plaît.
5.
C'est ça. À partager évidemment notre podcast autour de vous, à nous mettre des commentaires sur Apple Podcast et surtout à continuer de nous écouter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Fabien, merci beaucoup d'avoir
merci
participé.
Fabien.
Merci à vous, c'était un plaisir, j'ai passé un très bon moment.
Ben on espère.
Sinon on voit nuit.
Avec Slavko.
On vous quitte donc sur
les babouchkas.
Elle s'appelle vraiment comme ça, hein.
Oui, okay. Oui, mais sur Party for Everybody des Buranovski Babouchki.
Bah parce qu'au singulier c'est Babouchka.
Voilà.
C'est ça. Non, c'était nul.
Tu comprends.
C'est ça. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci.
Salut,
à
merci.
À bientôt.
Merci.
À bientôt. Au revoir.